temps de lumière dans la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du sang où la volonté de Dieu est connue. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du sang que nous appelons la race des hommes. Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure finale. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Je vous salue.
Bonsoir, nous vous saluons. Et voici la question d'introduction. Pourrions-nous avoir plus de détails sur la manière dont se fait l'alchimie des énergies que l'homme vient chercher dans la matière?
Je vous salue et vous engage à un nouveau partage plein de fruits. Et quand je dis plein de fruits, cela ne veut pas dire que je prétends vous apporter quelque chose. J'espère au contraire que vous-même, vous allez savoir comment puiser en vous-même ce dont vous avez besoin, non seulement pour votre évolution, mais pour votre épanouissement. Autrement dit, je n'attends pas que ma parole fasse un quelconque effet et produise un quelconque changement en vous. Mais simplement, s'il m'est permis de rêver, j'ose espérer que le simple contact, peut-être d'amour à amour, d'âme à âme, de présence à présence, ce simple contact pourra vous-même vous induire dans une plus grande humanité. Et que grâce à cette plus grande humanité ainsi découverte, vous saurez davantage guider votre vie et maintenir votre vie. Qu'ensuite vous ayez besoin de qui que ce soit de moi ou d'un autre, peu importe. Parce qu'en fait, il ne viendra pas vous aider. Cet être, cet autre être, celui que l'on peut appeler le guide ou le messie, ou quelquefois tout simplement un bon conseiller, cet autre que vous-même, en fait, n'est pas là pour révéler quelque chose qui ne vous appartient pas et qui, d'un seul coup, par sa parole, va vous appartenir parce que vous réalisez la vérité de la chose. Il faut tout simplement au cours du chemin rencontrer un miroir qui ne dit rien de nouveau, qui donc ne vous apprend rien en tant que tel. Un guide ou un bon conseiller n'est pas là pour vous apprendre quelque chose comme si l'homme, de par sa nature, ne connaissait rien. Le statut de l'être humain, même si on considère ce statut au début de l'évolution, ou en tout cas au cours de l'incarnation, le statut de l'être humain ne veut pas dire ignorance. Un être qui est humain n'équivaut pas à l'ignorance parce qu'il est humain. Comme si la connaissance était l'apanage de la divinité. Et donc, s'offrait à l'individu au moment où il peut contacter sa divinité. Il faut bien comprendre que dans le cœur humain et dans le centre de l'être humain demeure l'éclat même de la vérité. C'est-à-dire que celui qui croise votre chemin et qui s'appelle le guide et qui va vous parler en tant que guide ne va pas en fait vous dire des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez pas connaître si on vous laisse simplement votre statut humain et à votre condition humaine. Lorsqu'une parole est prononcée, lorsque quelque chose est donné ou révélé, comme vous dites vous-même, ce n'est pas parce que l'on vous dit quelque chose qui est inconnu, c'est simplement que l'on reprécise dans l'esprit quelque chose qui est maintenu dans un état de sommeil. Et il est important que vous compreniez que la conscience humaine n'est pas ignorante, mais que la conscience humaine est simplement en état de sommeil. Lorsque donc vous rencontrez un guide, vous n'êtes pas celui qui va écouter et apprendre, et le guide n'est pas celui qui va instruire et révéler. Il y a tout simplement deux niveaux de conscience qui se rencontrent, une conscience qui dort et une conscience qui est éveillée. Et pour réveiller cette conscience qui dort, la conscience qui est réveillée va parler de ce qu'est son royaume depuis son état de réveil. C'est-à-dire que cette conscience que l'on va qualifier de plus évoluée, qui ne fait simplement qu'être plus éveillée, va simplement dire ce qui se passe, comment l'on vit lorsque l'on se réveille enfin et une bonne fois pour toutes. Il n'est donc pas question d'apprendre quelque chose. Il n'est donc pas question non plus d'évoluer comme s'il s'agissait de devenir depuis de la boue, et une boue informe et une boue infecte, devenir donc depuis un état de boue, devenir un état divin. Si l'on ne comprend pas que ce qui sépare l'homme de la divinité, c'est tout simplement la transition et les transitions successives qui font passer du sommeil au réveil, on ne comprend pas non plus ce que l'on doit faire pour véritablement évoluer. Pour la conscience qui dort et qui paradoxalement, tout en dormant, se met à rêver, c'est-à-dire que son sommeil n'est pas un profond sommeil. De la même façon, lorsque vous vous endormez pour la nuit, vous apercevez que votre subconscient continue à produire des images et que votre inconscient vient y mêler ses histoires. Et tout ceci s'appelle le rêve. La conscience humaine, la nature humaine, sont elles-mêmes plongées dans une sorte de sommeil qui permet ce rêve. Et d'ailleurs, si l'homme rêve lorsqu'il dort la nuit, c'est bien parce que, étant donné que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, c'est bien parce que la nature de l'âme elle-même, lorsqu'elle dort, se met à rêver. C'est pourquoi tout ce que l'on fait dans la vie traditionnelle, tout ce qui intéresse l'homme traditionnel, tout ce qui sont ses buts, ses intérêts, sont appelés illusions. Par exemple, vouloir gagner de l'argent. Vouloir gagner de l'argent s'appelle une illusion lorsque l'on ne pense qu'à gagner de l'argent. Mais pourquoi est-ce que cela s'appelle une illusion? Est-ce le fait de gagner de l'argent qui est une illusion? Non, pas du tout. Et la société prouve tous les jours que pour vivre et survivre, il faut avoir quelques deniers. Donc gagner de l'argent, vouloir avoir un métier et vouloir exercer ce métier, ou vouloir trouver une voie qui permettra de nous sustenter, vouloir donc gagner de l'argent pour la survie n'est pas une illusion. Cependant, lorsque l'on veut gagner de l'argent uniquement pour le plaisir d'amasser ou le plaisir d'être riche, que ce soit uniquement pour se sentir en sécurité ou que ce soit pour être plus grand que les autres, lorsque gagner de l'argent est motivé par ces attitudes que je viens de citer, alors l'action qui va vous permettre de gagner de l'argent sera alors une action fausse, pleine d'illusions. De la même façon, lorsque vous produisez d'autres actes, on dit par exemple que l'amour est une illusion, que s'attacher à un autre être est une pure illusion, et que pour travailler à devenir Bouddha ou quelqu'un d'autre, il faut se détacher de toute affection, de l'affection que l'on peut porter à un animal, à un être humain, à des fleurs, pour ceux qui sont jardiniers, ou à quoi que ce soit d'autre. Rien d'affectif ne doit vibrer dans l'être humain. C'est ce qui semble être dit quand les sages parlent du détachement. Cependant, il faut savoir que le fait même d'aimer, et même d'aimer comme un Bouddha, le fait même d'aimer est une vibration immense qui inclut tous les attachements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire que pour celui qui va aimer d'un amour profond, d'un amour plein de sacrifices, pour celui qui va aimer de cette façon-là, l'amour sera exactement le même, aura la même vibration que pour celui qui est profondément amoureux de quelqu'un. Simplement, l'objet est différent. Pour celui qui est amoureux de quelqu'un, toute la vibration de l'amour et tout le feu, tout le brasier de l'amour va se porter sur une personne. Et cette personne est l'objet de l'amour. Et cet objet n'a pas le droit de disparaître ou de trahir. Dans le cas de l'amour d'un Bouddha ou d'un initié, ce même feu existe très puissant. Ce même brasier existe très puissant. Simplement, l'objet n'est pas délimité. L'objet est universel. Ce qui permet à un Bouddha ou à un initié de haut degré de pouvoir aimer tellement les hommes qu'il est capable de se sacrifier pour les hommes. Et ceci non pas parce que l'amour qu'il éprouve en tant que Bouddha est un amour différent de celui de l'amoureux, la vibration est la même. Simplement, cette vibration se déroule à l'extérieur de façon universelle, se déploie dans une immense marge, ce qui rend cet amour généreux et rempli de bénéfices pour les autres, alors que celui qui restreint le champ de rayonnement de cette vibration rend par là même la vibration mesquine et étouffée. La vibration étant mesquine, l'amour sera mesquin. La vibration étant étouffée, l'amour sera étouffant et va étouffer l'autre. Je prends cet exemple de l'amour et du champ de diffusion et d'ouverture pour démontrer qu'en fait, l'homme n'a rien à créer en lui-même. Il n'a pas à créer de divinité. Il n'a pas à devenir Dieu. Il n'a pas à s'efforcer à devenir dès demain un initié ou un saint homme. Il a déjà tout en lui. Tous les feux existent tels qu'ils existent déjà en Dieu ou dans l'archétype. La seule différence, mais énorme différence, sera dans l'emploi et la canalisation de ces feux, donc dans l'expression. Si un homme canalise toujours étroitement ses feux, automatiquement sa vie sera petite. Et c'est ainsi que naît ce que l'on va appeler l'attachement. Mais l'attachement, c'est quoi? C'est uniquement un retour de flamme qui jaillit devant l'individu et qui lui envoie exactement ce qu'il a envoyé en premier sur la terre ou sur un être humain ou sur un objet. Et ce retour de flamme étant exactement le même que celui qui l'a envoyé, automatiquement l'individu se trouve prisonnier dans cette flamme étroite. Et c'est comme cela que, en magasinant les étroitesses et les étroitesses les unes après les autres, la vie de l'individu devient une petite pièce. Et dans cette petite pièce, aucune vie véritable n'est possible. Et qui dit petite pièce, dit aussi petites heures de vie. C'est-à-dire que si vous exprimez votre conscience, si le champ de cette expression est chaque fois rétréci au lieu d'être très large, vous allez créer de petites heures dans votre vie. Chaque fois que vous ferez quelque chose de petit, vous aurez un temps de vie lui aussi qui est petit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que je veux dire que les gens n'ayant pas de grand esprit ou n'ayant pas une grande envergure vont mourir jeunes? Non, ce n'est pas cela que je veux dire. Je dis que les heures seront petites, tout simplement parce que le temps des incarnations sera saccadé et donc reviendra chaque fois. Il y a donc une petite roue. Nous appellerons cela la roue des incarnations. Il y a une petite roue où justement l'homme vit et meurt de façon rapide. Donc il vit, se désincarne et se réincarne de façon rapide et de façon aussi rapide que le champ de son expression était rétréci. Et de cette façon-là, il est comme un petit jet qui envoie de façon rapide et saccadée les informations de son âme et la lumière de son âme, ce qui le catalogue immédiatement sur une petite roue qui, elle, va aussi tourner très vite. Il va vivre, mourir, renaître de façon rapide. Et pour lui, la vie ne représente pas du tout un repos. D'ailleurs, entre les incarnations, il a très peu de temps pour se reposer. Il a à peine le temps pour répertorier toutes les informations qu'il a reçues depuis sa dernière vie, vite prédéterminer sa nouvelle vie, et automatiquement, très vite, il se réincarne. Ce sont les incarnations rapides. Puis, lorsque le champ d'expression, le champ de diffusion de l'énergie, à cause des compréhensions, lorsque ce champ de diffusion devient un peu plus large, alors l'homme, l'âme, monte sur une autre roue d'incarnation. Une roue qui est un peu plus grande et qui donc permet des temps d'incarnation pas forcément plus longs, car la vie physique dépend toujours en fait de la civilisation, de la race, d'une heure donnée sur la Terre. Mais ce temps d'incarnation sera comparativement plus long, même si l'individu qui appartient à une longue roue aura vécu le même nombre d'années que celui appartenant à une petite roue. Tout simplement parce que sa conscience aura été beaucoup plus présente au cours du même nombre d'années et qu'il aura pu pleinement expérimenter davantage de choses. Ce qui fait que, par correspondance, sa conscience va, elle, aussi prendre davantage de temps de l'autre côté du plan physique, c'est-à-dire au moment de la désincarnation après la mort. Étant donné que énormément d'informations auront été récupérées sur un plan physique grâce à une capacité de la conscience à être présente, lucide et de capter, automatiquement, lorsque l'individu bascule dans la vie non matérielle, il prendra autant de temps pour absorber ou pour continuer à compléter les informations ou pour se préparer à recevoir dans une autre incarnation d'autres informations. Donc, il y a ceux qui vivent et meurent très souvent parce que tout simplement leur capacité d'être conscient et véritablement conscient de s'apercevoir de ce qui se passe, de ce qui leur arrive, de vivre de moins en moins donc de par les automatismes. Il y a donc ceux qui vivent et meurent souvent, et il y a ceux qui vivent et meurent à une autre vitesse, une vitesse de croisière. Je ne dis pas qu'il faut préférer l'une ou l'autre roue, car la vie et la mort sont exactement la même chose sur l'une ou sur l'autre roue. Simplement, la faculté d'être plus conscient permet à la deuxième roue, celle qui est plus grande, permet à la deuxième roue d'obtenir davantage d'informations. Il y a donc dans le phénomène même de l'incarnation un phénomène de vitesse et d'accélération, exactement le même système de vibration, d'oscillation, exactement le même que celui qui habite au niveau des atolls. Lorsque l'on observe la vie des atomes qui composent la matière, on s'aperçoit que la vibration qu'ils émettent, le type de pulsation ou le type de rotation qu'ils ont, leur permet justement de se maintenir sur un plan matériel. Parce que sans cesse, ils retournent à la matière. C'est donc en vibrant de façon très rapide qu'un atome va pouvoir se maintenir sur le plan matériel. Si par exemple on pouvait arrêter la vibration de l'atome ou d'un groupe d'atomes, on s'apercevrait que instantanément il y aurait désintégration de la matière. Pourquoi ? Eh bien parce que l'atome ayant vibré par exemple une fois, ce qui lui permet de devenir manifesté sur le plan physique, ne pouvant pas pulser une autre vibration, il se retire automatiquement dans le non manifesté. Et de cette façon-là, il désintègre la matière, car il ne devient plus apparent, tout simplement. Ce qui donc permet la maintenance de la matière, c'est parce que comme l'homme ou comme l'âme, l'atome lui aussi vit et meurt de façon très rapide. Il retourne dans le non manifesté et rejaillit du manifesté, etc. Il retourne au non manifesté, c'est sa première étape. Puis il en ressort et revient dans le manifesté, c'est sa deuxième étape, et cela fait une vibration. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de vibrations dans un certain espace pour qu'il puisse déterminer un élément solide. Si l'atome restait dans son élément non manifesté, donc dans son état de ce que l'homme appelle la mort, car la mort c'est tout simplement retourner à l'état non manifesté, que l'on appelle aussi le pralaya. Si l'atome restait dans son pralaya, il n'y aurait pas de matière. Mais l'atome n'a pas le droit de rester dans son pralaya, alors il en ressort de façon très vite. Donc la matière a lieu. De la même façon, donc, l'homme qui est très matériel, et quand je dis matériel, je ne veux pas dire matérialiste, je dis tout simplement matériel au sens où sa conscience n'est pas encore réveillée suffisamment. Lui aussi, à la façon de l'atome, va devoir repartir vite dans son pralaya et en revenir aussi très vite. De cette façon-là, sa vie a lieu, car sa vie est toute matérielle durant cette époque. Puis, lorsqu'au fur et à mesure des incarnations, il devient un petit peu plus spirituel, comme vous dites, soit tout simplement un peu plus divin, le temps de résidence dans le pralaya peut se prolonger. Et pourquoi ? Tout simplement parce que, à ce moment-là, pour la conscience qui a commencé à se réveiller ou qui est pleinement réveillée, le pralaya n'est plus une mort. C'est tout simplement une vie à l'état non manifesté. Mais ce n'est pas la mort, soit la perte de conscience et de conscience objective. Au contraire, à partir du moment où la conscience est pleinement éveillée, le pralaya, ou la vie non manifestée, devient l'endroit de la vie absolue. Au contraire de la loi qui anime l'être matériel. Pour lui, l'endroit de la vie absolue sera l'endroit du plan physique. Et l'endroit du pralaya sera véritablement pour lui l'endroit de la mort. Car on ne peut transporter dans le pralaya que le degré de conscience que l'on n'a plus pu développer. Et si sur un plan d'incarnation, la conscience n'était pas suffisamment réveillée, lorsque l'individu retourne au non manifesté, eh bien sa conscience demeure aussi endormie. Et comme il n'y a plus aucun sens pour tirer à l'extérieur la conscience de l'individu, sa conscience est véritablement donc plongée dans un profond sommeil. Et c'est pourquoi ce sommeil est appelé la mort, car véritablement il n'y a aucune existence. Ce qui ne veut pas dire que l'individu n'existe plus. Il dort encore plus profondément que lorsqu'il était incarné. Et c'est cette mort-là qui affole les hommes. En fait, ce qui fait peur aux hommes dans l'acte de mourir, ce n'est pas de perdre le corps. Car beaucoup, finalement, intérieurement, ont l'intuition que quelque chose va continuer. Mais étant donné que tout le monde a commencé dans les règnes inférieurs, et tout le monde a commencé donc par être non évolué, tout le monde se souvient que la mort, le passage dans le non manifesté, est le passage dans l'obscur et un sommeil absolu. Et la conscience objective qui a pu se réveiller grâce au corps, au sens, à l'incarnation, cette conscience-là ne veut pas retourner dans le sommeil. Elle veut continuer à exister. Et c'est légitime. Cette revendication est absolument légitime. Mais pour véritablement continuer d'exister, il ne s'agit pas de vouloir continuer à être vivant, et surtout pas sur un plan physique, pour essayer de continuer d'exister. Il faut tout simplement développer en soi l'existence. Et ainsi, il n'y aura plus de mort. Il y aura simplement un jour incarnation, c'est-à-dire passage dans le manifesté, et un jour désincarnation, retour dans le non-manifesté. Mais cela ne veut pas dire que retourner dans le non-manifesté, l'être, va s'endormir, perdre conscience de lui-même. Au contraire, sa vie va continuer. Il y aura simplement un jour le corps et le lendemain plus de corps. Mais la vie se perpétue. Donc, que doit faire un être humain s'il veut perpétuer sa vie? S'il veut éviter de mourir? S'il ne veut pas mourir, s'il ne veut pas mourir, il faut qu'il construise en lui, qu'il déclenche en lui l'existence. Il y a une énorme différence entre vivre et exister. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs s'il existe deux termes. Vivre ou exister. Si je vis, je suis comme n'importe quel élément. J'use tout simplement mes jours et je fais ce que la société ou ce que le temps ou ce que la mode me disent de faire. Je mange comme tout le monde, j'aime comme tout le monde, je me dispute comme tout le monde, je travaille comme tout le monde, je fais l'amour comme tout le monde. Je suis malade comme tout le monde et finalement un jour comme tout le monde, eh bien, on me mettra une pierre tombale sur le ventre. Quand un individu vit, il suit tout simplement le courant. Mais le courant, ce n'est pas la vie. Le courant social, le courant de la civilisation, le courant de la mode, le courant de la religion, de la philosophie, et même, je peux le dire et l'affirmer, le courant de la spiritualité, des guides, ce n'est pas la vie, c'est un courant, c'est une structure. Alors, si je vis cette vie, si je vis ce courant, je ne fais simplement qu'effectuer que ce que le courant m'apporte. Je ne fais que faire que ce que le courant me donne à faire, parce qu'il le donne à faire à tout le monde. Alors, parce que l'on fait partie de l'ère des poissons, eh bien, tout le monde sera dévotionnel. ou bien parce que l'on fera partie de l'ère du Verseau, tout le monde sera alchimiste et altruiste. Ceci est faire partie du courant, et ce n'est pas la bonne façon de vivre. Un singe sait vivre comme cela. Regardez un singe. Il vous observe. Il voit que le matin, vous passez un peigne dans les cheveux. Alors, il va faire la même chose. Sitôt que vous aurez posé votre peigne, il va prendre le peigne et il va faire la même chose, en ajoutant des millions de grimaces. Parce que la grimace sera sa façon d'ajouter de l'humour. Un singe sait être spirituel. Il n'est pas besoin d'être un être humain pour être spirituel. Un singe sait le faire et je veux que vous compreniez cette chose. Pour que vous cultiviez en vous l'existence véritable et que vous ne soyez pas en train de singer ce qui vous est donné. Et lorsque c'est un Messie qui vient et qui vous donne quelque chose, que vous soyez en train de singer le Messie. Le Messie m'a dit de prier, alors je prie. Et le Messie prie comme cela, alors je prie comme cela. Ne soyez pas des singes, soyez des hommes. Que fait l'homme? L'homme regarde le Messie, c'est certain. Il ne dit pas au Messie, eh bien tu sais, il y a un grand frère qui s'appelle Pasteur et qui m'a dit que si je fais comme toi, même si c'est dans le but de devenir aussi parfait que toi, j'aurai l'air d'un singe, alors je ne fais rien. Alors puisque nous serons des millions à ne rien faire, malgré tes bons conseils, ce n'est pas la peine que tu viennes, tu sais, tu peux rester à Shambhala. Je ne dis pas que vous ne devez pas faire selon l'exemple des plus grands. Je dis simplement faites-le par votre existence. Et non pas parce que le courant vous y pousse. Parce que même si vous faites la chose, à partir du moment où vous la faites parce que le courant vous y pousse, elle ne vous apportera rien. C'est comme si vous alliez jouer au loto parce que tout le monde joue au loto ou joue au tiercé parce que tout le monde joue au tiercé et parce que le tiercé existe. Car souvent dans l'esprit de certains débutants en spiritualité, il n'y a pas loin. Aller dans la spiritualité, pour eux, c'est parfois comme jouer au tiercé parce qu'il faut jouer le cheval gagnant. Et le cheval gagnant, c'est le Messie parce que lui... Il va garder mon âme sauve dans le ciel. L'Apocalypse va venir, alors il faut que je mise sur le bon cheval. Et le bon cheval, c'est Jésus-Christ, ou Maitreya. Alors je vais croire en lui parce que je veux vivre, parce que je veux faire partie de ceux qui ne seront pas détruits. Il est logique et absolument légitime d'avoir des peurs intérieures. C'est normal, mais je suis là pour les enlever. Et il n'y a pas que moi. Il y a de nombreux autres frères et sœurs qui sont là pour enlever ces peurs. Ils ne sont pas là pour vous dire « Tu dois faire ceci, tu vas faire cela. À partir de demain, tu vas prier, tu vas chercher ton maître, tu vas ériger sa photo sur ton autel et le prier pour qu'il te sauve. » Si se lève un guide qui parle de la sorte, je vous dis, abandonnez-le, parce que celui-là ne fait que faire poursuivre votre peur, prolonger votre peur. Celui qui va véritablement vous affranchir de la vie pour vous lancer dans l'existence, celui-là va d'abord faire cesser vos peurs, vous apprendre à ne plus concevoir les mystères ou les passages comme des moments de terreur. Et lorsque la peur qui est en vous sera dissoute, automatiquement vous verrez votre propre liberté s'ouvrir. Et c'est grâce à cette liberté que vous allez découvrir l'existence. Il n'y a pas d'existence sans liberté. La vie, c'est la prison. L'existence, c'est la liberté. La vie, c'est la prison, c'est le courant. le courant qui conditionne et qui emporte la fourmilière coûte que coûte et comme il le peut, à l'endroit où il faut, parce que les fourmis sont aveugles, sourdes, malhabiles, et les fourmis ne veulent pas véritablement travailler. Alors le courant est là, qui les force. C'est la guerre d'usure. C'est la spiritualité par guerre d'usure. Un beau jour, à force donc d'être prise dans le courant, la personne finit par devenir toute polie, toute brillante. Et un beau jour, la personne se regarde et se voit polie, brillante, et elle se dit « Je dois commencer à devenir parfaite. » Et alors, elle commence à s'intéresser à la spiritualité pour tailler sur cette face polie, pour tailler les angles qui permettront de récupérer l'entier des vibrations de l'archétype, soit les 7 rayons, nécessitant la construction de 7 faces. Vous pouvez choisir la façon lente, qui est la guerre d'usure, mais vous serez aplati dans le fond du torrent, contre des écueils. Vous serez aplati dans la vase, dans la boue, où vous serez avalé par les poissons géants qui vous éjecteront hors de leur corps, dans leur défécation. Vous pouvez vivre de la sorte, c'est certain, mais vous pouvez aussi vous lever du courant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne veux pas dire que dès demain, vous allez vous lever, bomber le torse, et faire face au courant comme si le courant était votre ennemi ou la chose à mater. C'est faux. Au contraire, vous allez participer davantage au mouvement du courant. Mais au lieu de vivre ce courant depuis le fond, vous allez le vivre depuis la surface. Et à cette surface, vous allez pouvoir respirer de l'air, alors que dans le fond, vous ne vous pouvez pas respirer de l'air. Vous faites comme les poissons, vous absorbez de l'eau. Et de quelle eau je parle? Je ne parle pas de l'eau des océans, je parle de l'eau astrale. Lorsqu'un individu est dans le fond du courant et qu'il fait comme un poisson, qu'il se nourrit aussi bien au niveau physique qu'au niveau des quelques premières énergies de l'âme, c'est-à-dire au niveau de la vitalité, etc. Et que donc il se nourrit dans cette eau. Cela veut dire qu'il se nourrit principalement des eaux astrales. Beaucoup d'hommes, et la plupart des hommes, sont des poissons. Ils vivent dans cette eau. Et au lieu d'avoir des poumons, en vérité, si on pouvait faire un dessin dans le corps éthérique, eh bien on s'apercevrait qu'ils ont des branchies et que sans cesse, cette eau astrale passe à travers eux, dépose ce qu'elle peut de vitalité, car l'eau astrale est en même temps une eau de vitalisation, puisque l'astral est le plan aussi de la création. C'est un plan qui maintient toute la vie sur la planète. Mais il y a en même temps énormément de déformations qui passent dans cette eau astrale. C'est-à-dire que, en même temps que vous absorbez la vitalité astrale, et puisque vous êtes en train d'absorber la vitalité astrale, cela veut dire que vous êtes entouré par l'eau astrale. Donc votre œil lui-même aussi est plongé dans l'eau. Et le mal de l'astral, ce n'est pas d'être un piège, comme si l'astral avait été créé par les dieux pour piéger l'homme. Et le maître aurait dit, nous allons faire un homme, mais pour que cet homme ne devienne pas trop vite Dieu, parce que cela nous embêterait, Nous allons créer un piège qui est l'astral. Comme ça, il va se perdre dans les labyrinthes, se perdre dans les projections, et nous aurons la paix pendant quelques milliers d'années. Nous serons les rois pendant ce temps. Aucun dieu créateur n'a pensé de la sorte. Donc l'astral n'est pas un piège qui a été posé là, juste au-dessus des hommes, pour les maintenir dans les ténèbres. L'astral est une matrice de création, c'est une eau de vitalisation. On ne peut pas créer sans faire appel à l'astral et passer par l'astral. L'astral est la porte qui débouche sur le plan physique. Et c'est en même temps la porte de la vitalisation. Car l'astral condense énormément l'énergie solaire. Il n'y a pas plus grand condensateur de l'énergie solaire que le plan astral. C'est un fait. Et j'en veux pour preuve, observez autour de vous les hommes qui paraissent très matériels, dont la vie n'est absolument pas orientée ni vers l'intellect, ni vers la morale, ni vers la spiritualité. Et vous vous apercevez que ce sont des hommes ayant une puissante vitalité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils sont l'astral dans sa plus grande envergure. De la tête aux pieds, ils n'ont que de l'astral et l'astral les traverse complètement. Alors bien sûr, ce sont des êtres de passion, mais en même temps, ce sont des êtres de grande vitalité et parfois même de puissance. Ce qui fait que lorsque ces êtres se réveillent un peu à la magie, guidés uniquement en cela par le désir de puissance, eh bien ils deviennent des magiciens extrêmement puissants, extrêmement maléfiques et capables véritablement d'effectuer leur sort. Donc, l'astral n'étant pas un piège tendu par les dieux créateurs, qu'est-ce que l'astral ? Comme je l'ai dit, c'est une matrice de création. C'est une matrice de création nécessaire pour que la Terre ait lieu, toutes les étoiles et votre propre corps. Seulement, il faut savoir quelque chose, en principe, occulte. Ce qui vaut aussi pour le principe de création de la Terre. C'est que l'on ne peut créer un élément physique, comme par exemple de la terre ou de la chair, qu'à partir de la condensation de l'eau. C'est-à-dire que si l'on voulait véritablement savoir ce qu'est la terre, le compact, la terre, la croûte terrestre, le rocher ou la chair de l'homme, on s'apercevrait que c'est en fait de l'eau extrêmement condensée. Comme l'eau elle-même est du feu extrêmement condensé. Mais l'on ne peut aboutir à la création de la chair et de la croûte terrestre, du roc, qu'en passant donc par l'eau. Et l'eau, pas prise sur un plan physique, prise comme élément cosmique. Le seul élément cosmique qui soit de l'eau, donc de l'eau cosmique, c'est l'astral. Donc l'astral est un pays d'eau. Ce qui ne veut pas dire que pour ceux qui vont se dédoubler et aller promener dans l'astral, il faut prévoir dès demain un maillot de bain et un tuba. Vous n'allez pas plonger dans un océan qui s'appelle astral. C'est simplement le type de vibration et de conscience qui détermine ce plan qui a valeur d'eau. Pour bien comprendre ce que je dis, ou plutôt pour ressentir ce que je dis, il suffit que ceux qui sont capables d'un certain type de branchement, d'intuition, de captation, se mettent à l'écoute de quelqu'un qui est très typé par un signe d'eau astrologiquement. Prenez par exemple un poisson, mais qui est vraiment typé par son signe. Ou même si la personne n'est pas née avec son signe solaire dans un signe d'eau, mais que des signes d'eau sont très importants dans son thème et que l'eau devient par conséquent assez prédominante, essayez de ressentir la personne, de ressentir son eau. Et vous verrez que vous allez comprendre ce qu'est l'eau cosmique. Et encore une fois, cela n'a rien à voir avec un océan, c'est un type d'élévation, un type de conscience. Donc, puisque le type de conscience de l'astral est aquatique, pour l'homme qui vit plongé dans cet astral, lorsqu'il va regarder le monde, que ce soit le monde physique ou le monde divin qui est au-dessus, son œil va être noyé. Son paysage, le paysage terrestre ou le paysage divin, sera noyé, sera troublé. Pour comprendre ce que je dis, et ceci n'a lieu qu'au niveau de la conscience, pour comprendre ce que je dis, prenez un exemple très visuel et aidez-vous pour cela de vos propres yeux. Mettez-vous dans une baignoire ou dans un bassin et ouvrez les yeux sous l'eau à une certaine profondeur et essayez de regarder le paysage qui est au-dessus. Et vous verrez que tout vous apparaîtra de façon trouble, dans un mouvement qui va perturber la régularité du paysage que vous connaissez lorsque vous êtes hors de l'eau. Et c'est cette déformation visuelle qui crée le trouble dans la conscience. Ayant un paysage déformé, ou en tout cas partiellement déformé, l'individu, qui est en fait celui qui voit et regarde, l'individu va se dire « mais l'arbre de Joseph est un arbre qui ondule ». Et il va aller dire à tous ses frères, « J'ai vu l'arbre de Joseph sur la rive. » Et l'arbre de Joseph est un arbre qui... mettant cela. Et en fait, ce n'est qu'un pays.